Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandé-Lot-Angévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble pour une nouvelle visite radiophonique et comme nous sommes en décembre, qui dit décembre dit visite radiophonique spéciale Noël. Et on se retrouve une nouvelle fois au coin d'une cheminée avec plusieurs intervenants de l'année 2024, avec Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire Mandé-Lot-Angévaudan. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Et avec Caroline Entraigue du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Bonjour Caro.
Bonjour tout le monde.
Alors Nelly, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
On va parler de cinéma et de séries. L'année dernière, on avait évoqué les contes et le lien qu'ils évoquaient pour nous avec le patrimoine bâti lozérien. Cette année, on aborde un autre type de patrimoine, cinématographique cette fois. Et donc, sur le même principe que l'année dernière, chacun de nous a choisi un film ou une série qui a été tournée en Lozère, principalement dans le Pays d'Art et d'Histoire. Et donc, chacun fera le lien avec un site, un lieu du territoire. Et en plus, alors pourquoi on a choisi ce thème ? Parce que Noël, on le sait, c'est l'occasion de revoir des films qu'on a vus et revus et re-revus. Hein, je ne vais pas citer Le Père Noël est une ordure qui va passer dans 3 semaines, j'imagine, oui, à la télé. Donc voilà, on va évoquer ce patrimoine cinématographique et les lieux de Lozère où les films ont été tournés.
Et d'ailleurs, je présenterai moi aussi un petit quelque chose, mais avant de parler de nos films ou séries, Nelly, est-ce qu'on sait à peu près combien de films ont été tournés en Lozère ?
Alors, il y a à peu près une cinquantaine de films et de séries qui ont été tournés en Lozère depuis un peu plus de 70 ans. Et sur ces 50 productions, une petite dizaine ont quelques passages dans le Pays d'Art et d'Histoire. Alors, parmi ces films, certains ont connu un succès plus ou moins retentissant, on va dire. On peut en citer quelques-uns, notamment le premier, La Grande Vadrouille de Gérard Houry en 1966, Scout toujours. Je cite que les plus connus, hein, Scout toujours en 1985, 37 de Le Matin de Jean-Jacques Benex, Le Peuple migrateur, Lucie, Le Semeur, tourné en 2018 à la gare de Guérin, plus récemment Sur les chemins noirs en 2021, ou encore Le Livre des solutions de Michel Gondry en 2023.
Et je crois que tu en as oublié un qui a fait un carton au box-office, et Béné est là d'ailleurs pour nous en parler. Salut Béné.
Bonjour.
Et oui,
Béné.
Je vais vous parler d'un film que vous avez certainement tous déjà vu. Je vous fais deviner ? Antoinette est institutrice. Elle attend avec impatience la fin de l'année scolaire pour s'évader une semaine avec son amant Vladimir, qui est le père de l'une de ses élèves. Alors quand Vladimir lui annonce que, contrairement à ce qui était prévu, il va passer ses vacances avec sa femme et sa fille à marcher dans les Cévennes, Antoinette, humiliée et furieuse, ne réfléchit pas longtemps. Elle décide de suivre leurs traces sur le chemin de Stevenson, seule avec un âne nommé...
Patrick !
Après des débuts difficiles avec son âne pas toujours docile, elle finit par développer une certaine complicité avec lui, à force de lui raconter sa vie et ses multiples déboires sentimentaux. Lors de ce périple, rien ne va se dérouler comme elle l'avait imaginé, et cette randonnée pleine de découvertes et de surprises sera l'occasion pour elle d'envisager la vie sous un autre angle. Vous l'avez reconnu ?
Alors attends, Antoinette, qui est dans les Cévennes, qu'est-ce que ça
C'est
pourrait
facile.
Bien être, Nelly ? Tu as une idée ?
Moi, je pense à Antoinette dans les Cévennes.
Ah,
Bravo Nelly. Voilà, c'est bien Antoinette dans les Cévennes. Hein. Ce film avec Laure Calamy, Benjamin Laverne, Olivia Cotte et, allez, on la refait,
Patrick.
Alors, cette comédie de Caroline Vignal est sortie au cinéma le 16 septembre 2020. Et elle a rencontré un succès inattendu avec plus de 700 000 entrées. Laure Calamy a même obtenu le César de la meilleure actrice pour le rôle d'Antoinette. Alors, c'est vrai que c'est un film drôle et rafraîchissant, un peu cucu à mon goût. Mais il faut se souvenir qu'en septembre 2020, on sort du confinement et ce film apparaît vraiment comme une bouffée d'oxygène. Les Français en manque de légèreté et de grands espaces avaient besoin de ça. Alors le film progresse dans les beaux paysages lausériens, mais pour la beauté des images, comme souvent au cinéma, la réalisatrice va prendre quelques libertés avec le fameux voyage de Stevenson.
Ah oh bah dis donc, il est magnifique! Waouh!
Wow, il est quand même plus beau de face. Hein. Lapin, retourne-toi! Lapin!
Lapin!
Alors, je vous présente Patrick.
Ah, enchanté Patrick.
Patrick, je te présente Madame Loubier.
Éléonore.
Éléonore. Alice. Et, excusez-moi.
Vladimir.
Ouais, Vladimir.
Vladimir.
Papa, qu'est-ce qu'il y a?
Bah, vous vous connaissez peut-être. Non.
Bon, tu vas prendre ta douche ou je vais...
Non, vas-y, j'ai la place.
On peut reconnaître les paysages du Mont Lozère. Elle a tourné à Finiels, au pont de Montvert. Mais par contre, le Cosmégen, ça c'est un peu limite. Stevenson n'y a jamais mis les pieds. Et puis rien sur le territoire du Pays d'Arrêt d'Histoire. Pourtant, la Bastide, Chasserades, le Blémar sont bien décrits dans le livre. Rappelez-vous, à l'automne 1878, Robert Louis Stevenson, le célèbre écrivain écossais, débute son périple au monastier sur Gazeille en Haute-Loire. Comme Antoinette, c'est une peine de cœur qui le décide à entreprendre son voyage pour se ressourcer tout en découvrant le pays des Camisards. Il va traverser la Lozère accompagné de son ânesse Modestine pour atteindre 12 jours plus tard Saint-Jean-du-Gard au terme d'un périple de presque 200 km. Avec le succès du livre « Voyage avec un âne dans les Cévennes » paru en juin 1879 et l'engouement grandissant pour les voyages à pied, un itinéraire de randonnée est mis en place en 1978. Cet itinéraire est ensuite intégré au réseau des chemins de grande randonnée sous le nom de GR70, le chemin de Stevenson. Et aujourd'hui, environ 13 000 voyageurs marchent sur ce chemin chaque année.
Moi, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui l'a vu.
Moi, je l'ai vu.
Nelly, tu l'as vu aussi ?
Oui, moi aussi.
Oui, tu disais un succès. Oui, ça a été un gros succès. D'ailleurs, il y a les Américains veulent faire un remake, hein, je crois, et d'ailleurs venir tourner dans la région.
J'ai entendu parler de cette histoire, mais je ne sais pas quand est-ce qu'est programmée la date du tournage.
Oui, je ne sais pas. On demandera des prochains invités qui vont nous rejoindre. Peut-être qu'ils en sauront plus.
Et c'est vrai que les chemins ont vraiment inspiré les cinéastes. Et je passe la parole à Caro qui a quelque chose à nous dire à ce sujet.
Ben oui, moi aussi, j'ai choisi de parler de pèlerinage, de randonnée et de chemin. Je me suis intéressée à un film alors que je ne connaissais pas avant cette émission, qui s'appelle Saint-Jacques la Mecque. Donc, pour vous faire un peu le synopsis, c'est l'histoire de trois frères et sœurs, Clara, Pierre et Claude, qui apprennent du coup la mort de leur mère. Et donc, pour bénéficier de l'héritage de cette mère, dans le testament, il est indiqué qu'ils devront faire le pèlerinage de Saint-Jacques depuis le Puy-en-Velay, tous les trois sans jamais se séparer. Le seul hic, du coup, c'est qu'ils se détestent tous les trois, donc c'est un magnifique film rempli de mots grossiers tout le long du film.
Ouais, c'est un scénario aux inconnus un peu, ça.
Un petit peu, ouais. Voilà. Et donc, ils détestent la marche, ils détestent tous les trois. Et puis, du coup, ils sont embarqués dans toute une tribu de randonneurs comme eux qui ne savent pas trop ce qu'ils font là, dont des jeunes lycéens un peu amoureux qui pensent aller à la Mecque, d'où le nom du film Saint-Jacques la Mecque. Voilà. Alors, la réalisatrice, c'est Colline Serrault. Le film est sorti en 2005 et en fait, elle avait déjà tourné en Lozère 10 ans avant pour le film qui s'appelle La Belle Verte et qui a été tourné en 1996. Elle a été notamment la réalisatrice de Trois hommes et un couffin et également La Crise. Donc le site n'était pas inconnu pour elle.
On boit un coup ?
T'as pas de verre ?
T'as pas d'eau ?
T'en as toi ?
Oui, pourquoi ?
Pour moi.
Dans la côte, qu'est-ce qu'il apportait l'eau?
C'était toi, Pierre. Tu es fort et courageux. Rien ne te résiste. Je t'admire, Pierre.
Va chier.
Tu me prêtes du papier cul?
Si vous pouviez trouver un mode de communication qui ne passe pas par l'insulte.
Il n'y a rien dans le testament de ma mère qui dise que je n'ai pas le droit de répondre à mon frère.
Non, mais entre répondre et insulter, il y a une petite marge qui fait toute
on
la
différence. Ma soeur non plus d'ailleurs.
Vas-y, insulte-moi, je t'éclate la tête.
Pourquoi moi j'ai choisi ce film comme Béné pour la question du pèlerinage, de la randonnée, de la grande randonnée et ça m'intéresse beaucoup sur la notion du cinéma et des paysages. Il faut savoir que la Lozère, c'est à peu près 2000 km de GR, hein, donc de chemin de grande randonnée. Alors, donc on a le Saint-Jacques, le Stevenson, dont parlait Béné tout à l'heure, la Régornane, le chemin urbain 5. Puis il y en a d'autres un peu plus petits, ça va être tous les tours du Mont-Lozère, les tours des Monts d'Aubrac, le chemin aussi de Saint-Guilhem-du-Désert ou celui des Gorges et des Vallées du Tarn, qui est entre Villefort et Albi. Et ce qui est intéressant dans ces films, c'est comment le paysage devient un personnage à part entière. Il met en avant souvent nos grandes perspectives, nos grandes étendues, notre faible densité de population. Donc on voit souvent très peu d'architecture finalement, et finalement beaucoup de grands paysages. Et puis ce que j'aime beaucoup dans ce type de film, c'est les erreurs de géographie. Voilà. Moi j'adore...
Je croyais que t'allais dire c'est l'humour.
Non, c'était pas l'humour sur celui-là, j'avoue. Et du coup, c'est vraiment les erreurs de géographie. Comme l'a dit Bénédicte dans Antoinette dans les Cévennes, on va retrouver les mêmes erreurs sur notre fameux Saint-Jacques de Compostelle. Alors on commence logiquement au Puy-en-Velay, tout va bien. Ils enchaînent ensuite sur le domaine du Sauvage. Jusque-là, tout va bien. Et puis, passé le panneau de la Lozère, ils arrivent directement sur l'Aubrac. Et puis, beaucoup de scènes ont été tournées aussi dans le parc national des Cévennes, sur la commune du pont de Montvert. On voit notamment les monts Joie du mont Lozère, même le pont du Tarn, voilà, qui fait partie du chemin de Stevenson.
Et pas celui de Saint-Jacques.
Et pas celui de Saint-Jacques. Et quelques scènes aussi ont été tournées au lycée Chaptal à Mende.
Ah bon ?
Et même une au château du Champ à Altier. Donc autant dire qu'une bonne partie a été tournée en dehors de la Margeride et qui du coup n'apparaît que très peu dans la série. Et ensuite ils finissent bien sûr sur l'Aubrac, au Buron de Rajas près de Marchastel, et Malbouzon pardon, donc tout va bien. Mais en tout cas, sur le milieu, il n'apparaît pas du tout le paysage de la Margeride, donc un paysage plutôt vallonné, parfois un peu refermé, des clairières, des sous-bois. Et ce paysage-là n'était pas, à mon avis, pour la réalisatrice, un paysage culturel qui amène à cette impression de huis clos qu'on retrouve dans le film, où finalement les gens sont à l'extérieur, mais sont finalement confinés entre eux, en quelque sorte. Et donc, c'est vraiment... un peu ce paysage, ce grand étendu qui sont un peu à la mode aujourd'hui. Et donc on parle là vraiment de paysage culturel, de paysage où on va parler du bien-être, d'un paysage presque thérapeutique. Hein. Dans le film, il nous montre bien avec des scènes un peu surréalistes. Mais on est vraiment sur cette notion de paysage à la mode, en phase avec, avec les envies de la société d'aujourd'hui. Et puis du coup, pour parler du Saint-Jacques, je trouvais intéressant aussi de parler d'un projet qui s'est réalisé sur Saint-Alban-sur-Limagnol. Vu qu'ils ont été oubliés dans le film, autant en parler dans l'émission radiophonique. Et du coup, il y a un très beau programme de création d'œuvres d'art refuge tout le long du Saint-Jacques, qui est coordonné par la scène conventionnée qui s'appelle Derrière le Hublot. Et ils ont récemment inauguré le 21 septembre ce qu'on appelle le Castrum. Donc c'est une œuvre d'art refuge où on peut venir passer une nuit au milieu du coup de ces grands paysages. Et ça a été réalisé par l'artiste Mariana de Delas, à Saint-Alban. Et donc ça me paraissait aussi intéressant de faire le lien un peu avec ce paysage thérapeutique et les œuvres d'art refuge. Voilà, puis Saint-Alban, c'est quand même une grande étape du chemin de Saint-Jacques avec une église classée qui est très intéressante. Ça fait un clin d'œil avec l'émission radio qu'on a enregistré également cette année là-dessus. Et donc voilà, il y a tout un patrimoine médiéval très intéressant sur Saint-Jacques. Patrimoine médiéval, on va peut-être nous parler tout à l'heure, notre invité mystère.
Qui vient d'arriver. Salut Vincent.
Salut.
Avant de donner la parole à Vincent, parler de Saint-Jacques-la-Mecque, même question et encore honte à moi, je ne l'ai pas vu non plus. Alors ça fait deux films sur deux présentés. Nelly, Béné, vous avez vu Jacques-la-Mecque ou pas du tout?
Oui, moi
oui,
je l'ai vu.
Moi aussi, je l'ai vu, ouais.
Et alors, on conseille ou on ne conseille pas ?
On déconseille.
On déconseille. Ah, carrément. Pour les paysages, Nelly ?
Oui, voilà. Pour les paysages et puis peut-être aussi pour les figurants. Ce n'est pas le film du siècle, ce n'est pas un grand film, ce n'est pas un film dont on se rappelle beaucoup. Mais par contre, on se rappelle du moment où il a été tourné en Lozère. Il y a pas mal de Lozériens qui ont participé à ce film. Donc voilà, peut-être juste pour les paysages lozériens, parce que Colline Serrault, elle est sympathique.
Et c'est une bonne réalisatrice, Colline Serrault.
C'est une bonne réalisatrice. Elle est très attachée à la Lozère, donc on y va pour ça.
Oui, mais pour les acteurs aussi, il y a Muriel Robin, il y a Pascal Légitimus. Mmh. Donc c'est quand même un film
sympathique,
rafraîchissant.
Mmh. Alors voilà. Plus Antoinette dans les Cévennes ou plus Saint-Jacques-la-Mecque, si on conseillerait à nos auditeurs, auditrices.
Antoinette dans les Cévennes, pour moi.
D'accord. Vincent, allez, on fait mieux que Antoinette dans les Cévennes et Saint-Jacques-la-Mecque.
Ah oui, largement mieux. Je vais essayer de vous faire deviner, déjà dans un premier temps, Ludo.
Ah, moi j'aime jouer, vas-y, voilà. On voit.
Donc je vais vous parler, alors je fais un petit pas de côté, moi c'est pas du cinéma, c'est plus de la série télé.
Ouh,
dont je vais vous parler.
Netflix quoi.
Netflix n'existait pas à l'époque, mais...
Premier indice.
Voilà, premier indice. Second indice, je peux te dire que c'est une obscure production américano-anglo-française de 3 saisons, 72 épisodes de 26 minutes chacun, qui était diffusée sur FR3. Donc, second indice, c'est vieux, hein, FR3 et pas France 3, à la fin des années 80.
Ah, j'y suis pas là.
Ça te parle ?
Moi, j'étais pas née.
Ouais, si, moi, j'aurais pu dire Maggie tout en rose, mais c'était sur France 2, donc ça ne marche pas, je ne sais pas.
Non, c'est pas.
Et c'était pas américain.
C'était pas américain ?
Non. Maguy.
Maguy, yeah.
Yeah.
Donc,
allez, nouvel indice.
Nouvel indice, je vais te faire écouter le. Enfin, je vais vous faire écouter à tous le générique. Qui a marqué toute une génération, je crois qu'on peut le dire.
C'est rythmé. Peut-être que Caro va trouver. Ça fait penser à K2000, mais je vois pas le côté français. Est-ce que c'est K2000 ?
Non, c'est pas K2000.
Est-ce que c'est Jean-Michel Jarre ?
Qui a fait
peut-être
la musique.
J'ai pas cherché, c'est peut-être Jean-Michel Jarre.
Peut-être
qui a fait
Jean-Michel
la musique,
Jarre.
Ça m'étonnerait quand même.
Jean-Mich, ça te dit quelque chose, cette musique, Nelly ?
Moi, ça me dit quelque chose, ouais.
Ah.
Je pense que Nelly, ça lui dit quelque chose. Ouais. Ouais.
Tiens donc.
Je confirme. Donc, il s'agit de la série Guillaume Tell ou Crossbows.
Ah.
Avec mon accent. Anglo-américano-français.
Oui, c'est ça.
Donc c'est
je
une.
Connaissais pas le titre.
Crossbows.
Ok. Mmh.
Attends, je refais. Crossbows.
Crossbows.
Donc c'est une série dont de 3 saisons, comme je l'ai dit. Et la particularité, c'est que l'intégralité de la saison 3 était tournée en Lozère, en prenant pour lieu de tournage plusieurs lieux patrimoniaux du pays d'art et d'histoire. Donc dans cette série, on voit notamment l'église de la Rouvière et l'église de Lannuéjol, le château de Montialou, dont vous parlera peut-être Nelly après, il me semble.
Je sais pas, on verra.
Et le hameau des Paillers de Bramonas sur la commune de Balsiège, dont je vais vous parler. Mais avant ça, quand même, un petit mot sur la série. Bon, Guillaume Tell, tout le monde connaît. Comme son nom l'indique, c'est une série qui s'inspire de la légende de Guillaume Tell. Alors, légende, parce qu'en fait, les historiens ont fait beaucoup de recherches sur Guillaume Tell et on ne sait pas si c'est une histoire vraie, un personnage historique ou une légende. Mais en tout cas, c'est un véritable héros de la Suisse du XIVe siècle et il constitue un des mythes fondateurs de la Suisse. J'ai appris ça en préparant.
D'accord, je ne savais pas du tout qu'il était suisse.
Voilà, je ne savais pas non plus qu'il était suisse.
Oui,
la pomme, c'est la pomme,
ouais.
Voilà.
C'est la pomme, mais bizarrement,
et
ils ont...
Pas que la pomme.
Ils auraient pu tourner à Altier ou à Cubières hein, pour les pommes de la vallée de l'Altier, mais non, vraiment, erreur de casting, ils n'ont pas tourné à Altier. Autre erreur, Caro en a parlé dans les bizarreries géographiques, alors là... C'est pas des erreurs géographiques, quoique il y en a aussi, hein, parce que dans les images, il passe du Cos au plateau du Palais du Roi en 2 secondes sur son cheval, donc il est très très rapide, Guillaume Tell. Mais il y a aussi beaucoup de liberté historique dans cette série qui est assez iconoclaste. Parce que si vous regardez cette fameuse saison 3 en Lozère, vous pouvez voir des combats contre des zombies... des chasseurs de têtes, des loups-garous.
Mais ça va bien avec la musique.
Voilà.
Je me suis dit, c'est Guillaume Tell 2.0, mais bon, dans c'est les années ça. 80, ça n'existait pas encore.
Et il rencontre aussi la tribu des Amazones sur le Cos de Sauveterre. Donc, pour les gens qui
moi,
veulent
déjà
croiser les
Amazones,
allez vous balader sur le Cos de Sauveterre.
Non, j'allais dire, il faut quand même être, être motivé hein, pour regarder les épisodes parce que ça fait un peu mal aux yeux quand même. La pellicule n'est pas de très bonne qualité. C'est très, très jaune. Hein.
Oui.
Moi, j'ai vu un passage d'un que j'ai trouvé très bien, mais c'était juste un passage, donc je ne sais pas ce que vaut le reste.
Et pour les plus curieux et les plus téméraires de nos auditeurs, vous pouvez aller sur YouTube et taper Guillaume Tell série ou Crossbows et il y a tous les épisodes.
Tu nous conseillerais lequel ?
Anglais sous-titré néerlandais, hein, pour les plus fins connaisseurs d'entre nous, avec une qualité d'image vraiment pourrie, qui fait mal aux yeux, comme l'a dit Nelly. Et je vous conseille l'épisode 12 de la saison 3, mais ça je crois qu'on en reparlera un peu plus tard.
D'accord.
My son, why do you repair?
About your son?
You don't respond to our songs of peace, William.
Peace is just another prison.
Prison? But they are happy.
They're asleep.
Cette saison 3, il y a eu plusieurs épisodes tournés au Pyres de Bramones, comme je l'ai dit, qui est un bel exemple de l'architecture traditionnelle d'Écosse. Donc ce hameau, il rassemble une quinzaine de bâtiments à l'architecture typique d'Écosse, que l'on peut retrouver aussi sur d'autres hameaux du Cos de Sauveterre situés dans le pays d'Arrêt d'Histoire, comme au Falisson, au Fraissinel ou à la Basalgette. Donc ces hameaux qui regroupent maisons, granges et bergeries couvertes de lozes calcaires, c'est un des marqueurs de cette architecture d'Écosse, aire de battage puis citernes. Donc sur l'Écosse, l'eau et le bois étaient des biens rares et précieux, ce qui a conduit les Cossonards à fonder leur architecture sur la pierre calcaire, le seul matériau facilement disponible. Et donc, en l'absence de bois et de charpente, le bâti utilise préférentiellement un mode de construction basé sur la voûte, en fait.
Si tu veux intervenir en tant qu'archi,
oui,
Caro.
Tout est correct.
Tout est correct.
Ça va, Caro, je dis
correct.
Pas de bêtises.
Ouais.
Donc, sur ces maisons cossonardes, on a souvent plusieurs niveaux, avec un rez-de-chaussée qui est occupé par les bergeries, tandis que l'habitation s'organise au premier étage, ce qui permet aussi de bénéficier de la chaleur des animaux qui sont présents en dessous. Donc je l'ai dit, la toiture est en loz calcaire. C'est des lozes qui sont beaucoup plus épaisses et donc plus lourdes que les lozes de schiste et qui sont posées sans mortier ni clou sur un lit de terre qui recouvre la voûte. Donc voilà, cette voûte sert à supporter ces toitures qui pèsent énormément.
300 kilos au mètre carré.
Merci pour la précision, ça fait beaucoup.
C'est énorme.
Et un autre point aussi de cette architecture, c'est ben, sur le Cos, l'eau de surface est absente, hormis dans quelques lavognes qui sont des petits réservoirs de surface organisés pour abreuver le bétail. Et donc on récoltait l'eau des toitures via des chenaux en bois ou en pierre pour alimenter des citernes enterrées ou accolées au bâti. Et ça, dans le hameau des Pyres, on trouve plusieurs exemples, c'est visible. Alors, je ne l'ai pas précisé, c'est un hameau, c'est des constructions privées. Donc, voilà, il faut quand même respecter les gens qui habitent là si on va se balader. Mais il y a un petit sentier qui permet d'aller découvrir cette belle architecture. Et donc, cette omniprésence de la pierre fait que les constructions sont durables et ont souvent traversé le temps sans trop de dommages. Ce qui explique que ce hameau a conservé son caractère traditionnel et qu'il soit devenu un lieu de tournage régulièrement utilisé pour le cinéma et pour les séries. Donc Guillaume Tell dans les années 80, mais aussi le film Le frère du guerrier de Pierre Jolivet avec Vincent Lindon et Guillaume Canet en 2001. Mais il a été aussi le lieu de tournage de la série Hérocorp de Simon Astier en 2008, dont tu vas nous parler, il me semble, Ludo.
Absolument, merci Vincent, quelle belle transition.
Magnifique, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est bien préparée, cette émission.
C'est bien préparé, on travaille bien pour l'émission de Noël. Hein. Un peu plus que pour les autres émissions, d'ailleurs, je trouve. Bien sûr, monsieur Vincent, dans la famille Astier, je voudrais le demi-frère d'Alexandre et fils de Lionel Astier et José Devron. Simon, qui est né à Dijon, la moutarde montonnée. vu bien entendu dans Kaamelott, l'excellente série d'Alexandre Astier. Il a également réalisé donc sa propre série, dont il était également l'un des créateurs avec Alban Lenoir, que tout le monde connaît, qui était un ancien collègue de collège. C'est un ancien ami de collège. HeroCorp 2008-2017, série de super-héros humoristiques et fantastiques qui est diffusée tout d'abord sur la chaîne Comédie, puis sur France 4, puis sur Game One, une série télé bien moins connue que Kaamelott, mais que je vous conseille vivement. Vincent, tu l'as vu ?
Non, malheureusement, je n'ai pas vu cette série.
Eh bien, je te la conseille. Je demanderai à Nelly quand elle sera de retour. Nelly, tu l'as vu, HeroCorp ?
Alors, je ne l'ai pas vu en totalité.
Mais c'est fou ça!
J'ai vu les premiers épisodes, oui.
Caro.
Donc en fait, ça t'a pas plu si tu l'as pas regardé en entier. C'est...
Mais ça a mis du temps avant qu'il y ait la troisième saison. Il y avait plus d'argent. Ils ont fait un appel. Ils ont tout mis sur une nuit, France 4, pour savoir si les gens suivaient. Il y a eu beaucoup de téléspectateurs. Ils se sont dit, bah, finalement, ça marche. Donc on va faire une troisième saison. Il me semble que c'est la troisième.
Ben, moi, je suis passée complètement à côté quand c'est sorti.
Oui.
Et là, du coup, pour préparer l'émission, j'ai quand même regarder quelques épisodes d'HeroCorp, mais j'ai pas eu le temps de tout faire.
Hey. Oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Bah, bonjour déjà, non ?
Oui, bonjour, si vous voulez.
On cherche quelqu'un, vous l'auriez pas vu par hasard ?
Non.
On vous a pas dit à quoi il ressemblait ?
Bon, bah, allez-y. Ben non, voilà, je l'ai pas vu.
Non, mais faites un effort, faut absolument qu'on le retrouve.
Écoutez, les gars, je peux pas vous aider, je suis hyper occupé.
Tu fais quoi ?
Je transporte du pain.
Pour ?
Pour ramener chez moi.
Et t'es qui ?
Je suis Fourmiman. Quoi, vous avez jamais vu un super-héros ?
C'est quoi ton pouvoir ?
C'est une vraie question, ça ?
Bah, oui.
Je transporte du pain pour nourrir ma communauté.
C'est tout ?
Ouais.
Vous transportez que du pain ?
Bah, après, il y a des fourmis qui sont spécialisées dans d'autres trucs, mais moi, ma spécialité, si vous voulez, c'est le pain.
D'accord, vous êtes super doué pour trouver du pain, en fait.
Bah, ça, c'est sûr que s'il y a une bonne boulange, vous allez m'y trouver, hein. C'est certain, même.
Ah, c'est marrant. Ouais. Non, parce que Fourmiman, j'aurais dit que t'étais super organisé, par exemple.
Mais non, ça, c'est les abeilles.
Ah bon ?
Ah oui. Moi, attention, je suis organisé, mais plus comme une fourmi. Sinon, il y a la taille aussi qui me caractérise.
C'est-à-dire ?
Bah, je suis très petit. D'ailleurs, vous êtes bons yeux, parce que vous avez réussi à me voir.
Béné, tu l'as vu, toi ?
Non, pas vu. Je suis restée à Kaamelott.
D'accord. Caro ?
Eh bien, alors, j'avoue que tout le monde me la conseille depuis que je suis arrivée en Lozère, il y a 12 ans. C'est devenu un mythe. Et donc, je n'ose pas effleurer le mythe.
Eh oui, tu as bien raison. Alors donc, ça a été tourné à Payers de Bramonas. C'est comme ça qu'on dit, Vincent, pour être précis. Oui,
en partie.
Voilà, parce que moi, quand j'ai préparé, j'ai dit « Ah, je vais choisir ça », parce que Bramonas, on l'a fait dans une visite radiophonique. Comme ça, j'aurais pas à en reparler. En fait, non, c'est pas Bramonas, celui qu'on a vu. C'est Payers entre Mende et Saint-Enimi. Le pitch. Non, Nelly, je ne parle pas de gâteau. Pour le pitch. Alors, à la suite d'une guerre dans les années 80, il est décidé de créer l'agence HeroCorp, une organisation regroupant tous les super-héros afin de maintenir un climat de paix. Cette agence possède plusieurs sites secrets sur la planète. Et dans le département de la Lozère se trouvent les retraités, les mis au rancard, les démissionnaires, les démasqués, pas formés. Voilà, on a tout le lead des super-héros. Et coupés du monde, ils peuvent se retrouver dans une vie calme et paisible. 20 ans après, ce calme vole en éclats lorsqu'apparaît The Lord, le plus grand méchant de l'histoire. Et face à ce retour, le village est démuni. Selon une prédiction, John est l'unique solution face à ce danger que HeroCorp préfère garder sous silence. John arrive dans un village isolé, donc à Payers, pour aller enterrer sa tante. Il se rend compte que les habitants cachent quelque chose et qu'ils n'ont pas l'air décidés à le laisser partir. Voilà, ce village isolé où a été tournée une grande partie des épisodes, mais pas que, Nelly. Car il y a des épisodes qui ont été tournés, eh bien, où ça ?
Au château du Tournel, notamment.
Voilà, le château du Tournel. Et d'ailleurs, on peut retrouver des vidéos sur YouTube de gens qui sont allés faire des vidéos au château du Tournel en mettant sur les traces d'HeroCorp où ils se filment. Voilà. Oui ? Si ?
Bon, oui, mais
il n'y a qu'une vidéo, mais c'est pas grave. Non, il ne faut pas la regarder, il n'y a aucun intérêt. Mais c'est pas grave, il y a quand même des gens qui se sont dit j'aurais allé en pèlerinage en Lozère.
Vous avez le nombre de vues de cette vidéo de gens ?
Non, mais à mon avis, après cette émission, il y en aura beaucoup plus.
Mais quel est l'impact
touristique
de
cette vidéo ? 4 parce qu'il y a sa cousine. Non, mais en plus, c'est de la musique qui n'a rien dit, c'est nul. Ah oui, c'est nul. Mais combien de films, tu vois, les gens viennent sur place pour voir l'endroit où a été filmé un film ou une série ?
C'est pour dire que ça entraîne une sorte de tourisme.
Et oui.
dans le département.
En tout cas, Antoinette, dans les Cévennes, ils l'ont bien senti, l'arrivée de touristes suite à...
Guillaume-Tell aussi, engendre un tourisme aussi.
Oui,
de plus Antoinette.
C'est ça, mais au bord, plus vers là-bas. Au bord, Saint-Martin, tout ça. Est-ce que je présente le château du Tournel, Caro, Nelly, est-ce que j'ai bien besoin de présenter? Alors que c'était notre première visite radiophonique, où j'invite les gens à aller la réécouter.
Moi, je pense que tu peux inviter les gens à écouter notre première visite radiophonique. C'est notre toute première, je crois.
C'est notre toute première.
Ah, elle était tellement bien préparée en plus, celle-là.
Sous la neige.
Voilà, on peut annoncer qu'on va en faire une nouvelle, en fait, visite radiophonique sur le château du Tournel.
J'allais le dire, la mission Berne est passée par là.
Et pas que. Voilà, le château du Tournel est en restauration, rénovation depuis 3 ans maintenant. Et donc, on a chantier de fouilles également sur le site. Donc, on va certainement, et d'ailleurs on le sait, on ne va pas faire de mystère, mais... apprendre de nouvelles choses sur le château et le redécouvrir un peu différemment. Donc voilà, ça méritera une nouvelle visite avec les dernières données qu'on a sur le château.
Et puis, comme il va être réouvert au public, c'est aussi l'occasion d'en reparler pour que les gens puissent enfin s'y rendre.
Il rouvre quand? On sait ou pas? Quand est-ce que ça va finir tout?
Non, on va pas donner de date pour l'instant parce que le chantier est encore en cours et selon les conditions météorologiques, selon tout ça, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc on espère qu'à l'été 2025, ce sera bon, mais une fois de plus,
voilà.
Ne mettons pas la charrue avant les bœufs.
C'est ça. Ok, merci Nelly. Bon, mais je vais pas vous présenter le château du Tournel. Par contre, je vais vous parler d'un second film. Vu que je présente jamais de chronique dans cette émission,
je me suis dit,
allez, c'est mon jour,
le
on va s'emballer.
Wow.
Voilà, et c'est surtout que j'ai vu le film il n'y a pas longtemps, donc je me suis dit, ah tiens, ça a été tourné.
Alors, par contre, oui, je m'excuse de te couper, mais alors, Hérocorp, tu l'as vu, toi, cette série?
Bien sûr, sinon j'en parlerai pas, voyons. Je vous la conseille. Je vais vous parler du nouveau film de Michel Gondry, dont tu parlais en introduction, Le Livre des Solutions, qui est sorti l'an dernier. Le réalisateur Marc, personnage principal inspiré par Michel Gondry lui-même, perd pied dans sa descente aux enfers comico-dramatiques. Il décide de rebondir en emmenant l'équipe de son nouveau film poursuivre le tournage dans un petit village des Cévennes gardoises, où vit sa tante Denise. Paris gagné dans les Cévennes, le réalisateur déprimé retrouve sa créativité, si bien qu'il écrit Le Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes. Et à l'écran, Marc est incarné par Pierre Niney, accompagné de Blanche Gardin, Vincent Elbaz et Françoise Lebrun, ce qui est plutôt pas mal comme casting.
Bienvenue dans ton camiontage. Alors, ici, un premier écran avec ton montage principal et 2 autres écrans à travers le pare-brise que tu peux voir là avec tes rushs. Bien, approche-toi. Ici, avec ce clignotant,
Marie est mort,
je mets play.
10 ans maintenant.
Et avec clignotant à gauche,
ça va, le
pour mettre pause. Et si tu veux faire avance rapide, tu tournes le volant à droite. Vas-y, essaye. Tiens, regarde. Voilà. Et dans l'autre sens, si tu tournes à gauche, retour rapide.
Et pour couper,
tu klaxonnes. Et à l'arrière, on installe les producteurs.
Ils peuvent rien voir, là, les producteurs.
Voilà, exactement, c'est ça. Attends, juste la marche arrière pour les rushs. La marche arrière qui passe pas.
À qui tu parles?
Personne.
La marche arrière...
Qu'est-ce que tu fous là, Carlos? Tu retournes au montage, s'il te plaît.
Alors, il a été tourné entre juin et juillet 2022 à Saint-Sauveur, Camprieux et Villemagne dans le Gard, mais aussi à Meyrueis en Lozère. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Alors, l'enjeu pour Gondry, c'était de retrouver un peu les sites de son enfance. Donc, il a décidé de tourner dans les villages où il allait quand il était petit. Et également de prendre des acteurs et des équipes de tournage du coin. Donc, il a pris que des gens d'Occitanie. Voilà, c'est quand même à noter. On va parler du village de Meyrueis, donc, vu qu'il y a une partie aussi architecture que j'ai travaillée.
On dit Meyrueis ou Meyrueis?
On dit Meyruès.
Meyruès. Alors, l'étymologie de Meyruès est incertaine, mais ça, vous allez pouvoir me le dire, vous qui êtes des professionnels. Elle provient certainement, paraît-il, de la situation de la ville au confluent de plusieurs cours d'eau, la Jonte, le Béthuzon et la Braise. En occitan, Meyruès signifierait aussi mélange de cours d'eau, de mesclar mélangé plus rius cours d'eau. On trouve aussi parfois la variante latine midis rivis, au milieu des ruisseaux. Une autre explication est l'origine celte Maroyolas, Maro Grand, Yalo Clairière, l'évolution ayant donné Meyruès, mais aussi Maruéjol, Marvejol.
Qu'est-ce que t'as travaillé ?
T'as fait la fiche Wikipédia, en fait ?
Pas du tout. Non,
ton accent celte est magnifique.
Et oui, je sais. J'ai téléphoné en mairie pour en savoir plus. Voilà. Les premières traces d'un habitat permanent dans le vallon de Meyruès remontent à la fin de la préhistoire, possédées ensuite ou d'abord par les Visigoths de Septimanie, puis par les Sarrasins d'Espagne. La contrée rejoint l'Empire franc sous le règne de Charlemagne. Dès le Xe siècle, Meyruès marque les frontières entre le Languedoc auquel elle appartient, face aux comtés voisins du Rouergue et du Gévaudan. Vous me dites les filles si je me trompe, Meyruès est devenue au fil des ans un centre d'activité lainière qui peu à peu se spécialise dans la chapellerie. Un centre d'activité lainier, on en a parlé dans nos émissions, on a parlé entre autres de Marvejol. Hein. On s'était dit qu'on ferait une nouvelle visite à Marvejol parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette commune, que l'on peut nommer aussi Maruéjol.
Mmh. Alors là non, pas du tout, c'est Marvejol ou rien quoi.
C'est Marvejol ou rien, d'accord, merci Béné. Acquise dès 1550 à la réforme protestante, la cité connaît deux siècles de conflits, de convulsions religieuses qui ont profondément marqué son patrimoine et ses mentalités. Malgré cela, la prospérité économique s'établit peu à peu avec l'essor des chapelleries, des filatures de laine, des fabriques de bas de soie et de coton. Lors de la Révolution française, Meyruès est rattachée au nouveau département de la Lozère. C'est là qu'elle y arrive.
Peut-être on peut compléter quand même, parce que tu parlais de la mission Berne, mais il y a également le château de Roquedol à Meyruès qui a bénéficié de la mission Berne il y a peu de temps pour les premiers travaux d'urgence. Et c'est un site vraiment très intéressant, ce château, qui accueille notamment un très beau festival d'opéra et de musique classique, c'est le FOG, le Festival d'Opéra du Grand Sud.
Non mais on peut compléter aussi, Caro, souviens-toi, on a travaillé aussi sur l'école de Meyruès. En architecture contemporaine.
Oui, bien sûr. Alors, voilà. Meyruès, c'est un site très intéressant sur l'architecture moderne et contemporaine avec l'architecte Robert Prouin. Donc, on a peu parlé puisqu'il finalement il est un peu intervenu dans le territoire du Pays d'Arrêt d'Histoire. Mais il y a toute une greffe urbaine qui a été réalisée avec, en effet, des quartiers d'habitation, une école,
une très belle école, ouais.
Et un gymnase.
Sinon, une campagne de fouilles a été menée dans les années 80 au quartier du Claouzé qui a permis d'identifier un groupe d'habitations situé autour d'un monument public, temple ou basilique civile, un ensemble gallo-romain qui
est justement ce nouveau quartier de greffe, voilà. De greffe urbaine, le Claouzé. Ouais.
Absolument. Et après, on retrouve la maison des consuls, le four banal. Il y a des remparts qui circulent la ville.
C'est un très beau village, Meyruès.
Alors, question Vincent, les habitants, comment on les appelle de Meyruès ? Eh oui, il y a des pièges.
Les Meyruésiens ?
Les Meyruésois ?
Les Maruéjolisiens ?
Les habitants de Meyruès.
Rebecca Roy a raison. Les Meyruésiens et Meyruésiennes. 780 habitants en 2021 et combien en 1836 ? Allez, à 50 près.
Il devait y en avoir 2000,
c'est
non ?
C'est Wikipédia.
2000 pour Caro.
2498.
D'accord, très bien.
Oui, moi j'allais dire 2615.
Ok, à 50 près. Béné, avant de regarder sur ton téléphone, personne n'a trouvé, tu peux gagner.
2500.
Ok, 2199, vous avez tous perdu. 2200,
c'est pas grave. C'était toi la plus près quand même.
C'était toi la plus près encore. Bravo, Caro. Voilà. Et voilà pour Meyruès qu'on n'ira jamais proposer dans les visites radiophoniques parce que c'est un peu loin, ça ne fait pas partie du pays d'arrêt d'histoire, mais au moins on en aura parlé.
C'est pas si loin que ça, hein. En une heure dix, on a Meyruès.
Bon, mais peut-être qu'on ira alors au printemps. Au printemps, c'est joli en plus.
Il ne faut pas rouler en seconde comme dans le livre des solutions.
C'est ça, absolument. D'ailleurs, qui a vu le film Béné l'a vu ? C'est bien, hein ?
C'est super bien, moi je recommande tout ce que fait Michel Gondry de toute manière.
Oui, aussi. Vous l'avez vu ou pas ?
Oui, je l'ai vu.
D'accord.
Et figure-toi qu'on a une petite histoire avec Michel Gondry.
Ah, mais vas-y.
Toi et Michel Gondry, c'est ça ?
Exactement.
Le pays d'arrêt d'histoire.
Le pays d'arrêt d'histoire.
Alors laquelle ?
Eh bien, figure-toi qu'en 2011, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, nous étions au Salel, le village, la commune en aval de Chalac. Et le thème, c'était le voyage du patrimoine. Et donc, on a travaillé autour des véhicules anciens et on avait installé avec les écrans de Lozère, l'association Les Écrans de Lozère, dans le four à pain des Salelles dont on a parlé dans le cadre d'une visite radiophonique, qui est très grand. On avait installé un petit atelier fond vert avec une moto et deux manèges. Et on pouvait se balader dans les paysages du pays d'Arrêt d'Histoire depuis le four à pain des Salelles. Et figure-toi que Michel Gondry est venu à cette manifestation et qu'il a donc fait de la moto dans le four à pain des Salelles.
Super.
Dans les paysages du pays d'Arrêt d'Histoire.
Parfait. Ben, je vais te laisser le micro, vu que tu es là, pour nous présenter ton film.
Alors moi, je n'ai rien présenté jusqu'à présent, mais oui, effectivement, j'ai choisi un film aussi. Alors rien à voir avec les Salelles, mais à voir avec le pays d'Arrêt d'Histoire. Moi, je vais vous proposer le film Blanche de Bernie Bonvoisin.
À te plaindre, toi, fils de chien.
J'ai failli crocheter les gueux. Très agressif, un essaim. Ils étaient au moins 100, mais ils ont pris peur. Bon ange, encore lui. Il est en mission sur la rumeur. Il appartient à quel service, bon ange ?
La reine elle-même l'a présenté.
Imposé ?
C'est un ex-super espion en bout de course. Laisse-le glaner la rumeur, mais ne le quitte pas d'une semaine, j'ai pas confiance.
Éviscéré, crucifié, oui. Je suis pas bon en filature.
T'as pour mission de filer les fils. Ah, mais reste ! Moi, j'ai pour mission de gouverner, je vois ce que je peux faire. On voit toujours ce qu'on peut faire.
J'en ai assez de la basse besogne.
Sais-tu combien de nobles seraient volontaires pour se canter dites que tu dirais jalon quoi, un pas d'état d'âme? On s'engraisse, tout ça reste chrétien.
Je suis dévoué corps et âme à ta carrière. Égorger ne m'amuse plus. Et j'en ai plein le dos de couvrir bon ange.
Bon ange me montre ses capacités. Et toi, que fais-tu, tête pleine d'eau? Les bandes, c'est moi qui dois les faire tomber. Les artistes, c'est moi qui dois les persécuter.
Les bandes, c'est pas pareil.
Si, c'est pareil. Faut raisonner. Ne menace jamais une personne que tu as l'intention d'abattre. Elle serait sur ses gardes.
Quand t'as les mains dans la tripe, t'as pas la tête à raisonner.
Bon non, je lis, c'est raisonner. Chez toi, il n'y a que de l'instinct. T'es un animal dressé pour tuer. Comme tous les animaux, t'es un peu con. On n'y peut rien.
Donc, je vais vous présenter le film Blanche de Bernie Bonvoisin. Bernie Bonvoisin, qui était donc le chanteur de Trust. Blanche, qui est un film donc tourné en 2002. Enfin, sorti en septembre 2002, un film donc de Bernie Bonvoisin qui rassemble une tripotée de stars de l'Hexagone. Donc, on va retrouver dans ce film Lou Doyon, Roche Dizem, Jean Rochefort, Antoine Decaune, Carole Bouquet, José Garcia, etc. Gérard Depardieu, voilà. Et pourtant, est-ce qu'on a envie de revoir ce film? Je ne suis pas sûre.
Et alors Nelly, c'est quoi le synopsis?
Alors ça se passe au XVIIe siècle, où Blanche de Péronne, une gamine de 14 ans, est témoin du meurtre sauvage de ses parents par le capitaine Kékéké, responsable des escadrons de la mort, milice privée du cardinal Mazarin. 15 ans plus tard, elle se retrouve à la tête d'une bande de malfrats et souhaite venger la mort de ses parents. Se présente alors à elle celui qu'on nomme l'étranger, un mercenaire solitaire qui lui propose de braquer un convoi spécial destiné au cruel cardinal. L'embuscade réussit et la bande de Blanche se retrouve en possession d'un bien très convoité par Mazarin, une poudre du diable aux effets dévastateurs.
Ça a l'air bien dit donc.
Ouais, ça donne pas vraiment envie. Hein.
Mais si. Donc pour le faire court, c'est une comédie d'aventure, cap et d'épée, qui se passe au XVIIe siècle, donc un genre historique, mais dans lequel Bernie Bonvoisin va intégrer un schéma contemporain. Et donc un film plein de modernité, avec une liberté assez grande, un film sur la manipulation, la dissimulation, sur les enjeux du pouvoir. C'est Bernie Bonvoisin qui est derrière tout ça, évidemment.
Ça me fait un peu penser à Guillaume Tell.
Mais tout à fait, Vincent. D'ailleurs, Guillaume Tell a fait un passage à Montchalou, au château de Montchalou. Et donc, j'ai choisi ce film non seulement parce que j'aime beaucoup Bernie Bonvoisin, hein, Trust, mais aussi parce que une partie donc des scènes de ce film sont tournées donc sur le Cosméjan, dans les Cévennes, mais aussi au château de Montchalou. Au château de Montchalou, donc on va pas le représenter voilà très rapidement puisqu'on avait fait une visite radiophonique avec Caro dessus, mais simplement trois mots sur le château de Montchalou. Donc château médiéval, aujourd'hui en ruine. Attention, château privé, donc on n'y va pas tous les quatre matins. Et c'est un château qui appartenait à la baronnie du Tournel, ce qui fait le lien avec Hérocorp que tu viens de nous présenter, Ludo. Donc ce film, en fait, quand il est sorti, il y avait énormément d'attentes derrière, beaucoup de promesses, en fait, qui n'ont pas vraiment été tenu. C'est le troisième long métrage de Bernie Bonvoisin après Les Démons de Jésus et Les Grandes Bouches.
C'est lui qui a fait Les Démons de Jésus.
Oui, c'est son premier film, Les Démons de Jésus.
Très bon film, Les Démons de Jésus.
Voilà.
Oui, excellent.
Et donc, c'est pour ça qu'il y avait quand même de fortes attentes derrière ce film. Et en fait, malgré un succès assez honorable au box-office, puisqu'il a rencontré, je crois, 850 000 spectateurs quand même à sa sortie, les critiques l'ont assassiné, l'ont complètement démonté. C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. C'est un film qui part un peu dans tous les sens. Alors on aime bien le côté un peu punk, un peu voilà, un peu border de Bernie Bonvoisin. Seulement, en fait, c'est trop. C'est le trop plein, c'est le trop plein. Il y a, ça part dans tous les sens et du coup, en fait, on n'en peut plus. On en a plein les oreilles, plein les yeux. Mais pour autant, Ludo, j'ai pensé à toi en choisissant ce film parce qu'il y a, en fait, avec ce schéma contemporain qu'il a intégré à l'intérieur de ce film qui se passe au XVIIe siècle, avec des personnages historiques comme Mazarin, Louis XIV, Anne d'Autriche, il prend de grandes libertés avec l'histoire avec un grand H. Et surtout, il va garder un langage très contemporain, le langage d'aujourd'hui. Et donc, il y a quand même énormément de punchlines et de répliques cultes que tu pourrais récupérer pour des petits jingles. Voilà, pour changer un peu des bronzés.
Oui, c'est ça.
Hein, voilà.
Ouais, c'est comme Les Visiteurs à New York, c'est un peu pareil. C'est du médiéval dans du contemporain, avec exact. Des répliques cultes.
Ouais, voilà.
Ou pas.
Ce film, si vous avez envie de le revoir, il faut avoir... Enfin, voilà.
Bon. Il ne faut pas qu'il fasse beau pendant les vacances de Noël,
c'est
ça.
Et alors, surtout, on ne le trouve pas. Il faut l'acheter, en fait. On ne le trouve pas.
Ah ben bah, oui, super. Merci Nelly. Tiens, on
Mais
va dépenser de l'argent.
Mérite, il mérite d'être vu, d'être regardé sous un angle nouveau.
D'accord, voilà. Je croyais que Béné avait dit qu'il méritait d'être oublié.
Béné n'a pas l'air d'être d'accord sur tout. Là.
Je pense qu'on peut l'oublier, ouais.
Ouais.
Non, mais
moi,
non,
je suis d'accord
y a
aussi.
Il est dur aujourd'hui, Béné. Hein.
Mais oui, mais c'est ça. Il y a des jours comme ça.
Exigeante.
Non, alors, on retient de ce film les points positifs, c'est les dialogues, c'est les punchlines qui sont quand même assez drôles de temps en temps. On retient certains acteurs, mais pas tous. Voilà, on va vite oublier Lou Doyon. Qui en fait un peu trop. Mais voilà, on peut retenir Jean Rochefort, qui est quand même toujours formidable.
Oui, mais sur les noms que tu as donnés, je me suis dit, ah, il y a Jean Rochefort, je me suis raté qu'à lui. Hein.
Oui, bah bon. Après, il y a Roche Dizem qui fait le minimum, Gérard Depardieu qui fait encore plus le minimum, qui joue un D'Artagnan sur le retour. Carole Bouquet, je crois qu'il faut l'oublier, hein, elle en fait trop, beaucoup trop.
Ok. Est-ce que tu présentes le château ou pas ?
Je peux simplement vous dire, donc le château de Montchalou, qui est un château qui appartenait à la baronnie du Tournel, un château médiéval, situé sur la commune de Saint-Bosile, qui faisait partie des cinq mandements du Tournel, qui est aujourd'hui en ruine, mais qui nous renvoie au XIIe, au XIVe siècle. Et c'est de ce château dont est issu Aldebert III du Tournel, qui a fait entourer la ville de Mende de remparts.
Ah, d'accord.
Voilà pour la petite anecdote. Très beau château, château de Montchalou, mais ruiné.
Très belle anecdote, mais justement, c'est le moment de passer à nos anecdotes de fin d'émission.
Oui.
Qui a une anecdote parmi nous ?
Moi, je crois que j'en ai une pas mal, ouais.
Ah, dis-nous Vincent, une anecdote qui tue ou pour briller en société, ou les deux ?
Qui tue en société.
Ah, ça c'est bien, c'est mes préférés.
Oui, alors, revenons à Guillaume Tell, ce grand monument de l'audiovisuel français. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'épisode 12 de la saison 3, qui s'appelle Forbidden Fruit, le fruit défendu, en français.
Et qu'est-ce qu'il a de spécial cet épisode, Vincent ?
Eh bien, cet épisode, comme la plupart des épisodes de la série, a mobilisé de nombreux figurants et figurantes locaux, des Lozériens. Et je crois que dans cet épisode, il y a quelqu'un qu'on connaît assez bien dans cette émission.
Il me semble.
C'est vrai, c'est qui ?
Eh bien, dans cet épisode, alors je vous conseille d'aller le chercher sur YouTube.
C'est vers la fin de l'épisode.
D'aller directement à la fin.
Hein, ouais, parce qu'après, c'est pas intéressant, c'est juste
la fin. Et vous avez une certaine Nelly Lafon qui apparaît dans cet épisode autour d'un puits. Alors, je vais pas spoiler la scène, mais c'est une scène très chargée en émotions. Parce que Guillaume Tell s'engouffre dans un puits pour réapparaître dans l'épisode d'après dans une cité perdue avec des enfants un peu dans un monde parallèle. Donc, vous voyez, bon, l'esprit de la série est assez étrange et mêlant plusieurs ambiances. Et donc, vous voyez une petite fille jouer à la marelle autour de ce puits. Et pour les gens qui connaissent Nelly, ils reconnaîtront facilement Nelly.
Et Guillaume Tell aussi, on le reconnaît facilement. Oui. Il fait un beau geste très compréhensible. Moi, j'en ai pleuré de cette scène. Oui. Je ne sais pas vous, mais...
Ouais. Et malheureusement pour elle, cette tentative marquera à la fois le début et la fin prématurée de sa carrière télévisuelle et cinématographique. Ouais. Par contre, elle se rattrapera très largement dans les années 2020 en co-animant avec brio ses visites radiophoniques. Ouais. On est tous d'accord.
Absolument. Et ouais.
J'aime pas me vanter, mais je suis assez contente que tu... Que tu parles de cet épisode de ma carrière, Vincent. Je suis tellement fière de ça.
Moi, je suis content que tout le monde puisse aller le voir. D'ailleurs.
Oui. Et même pour les plus curieux, pour les passionnés de Guillaume Tell, je sais qu'il y en a beaucoup en Lozère. Vous pouvez aller voir le site williamtell.nl comme Hollande, parce que c'est un fan hollandais.
Comme Nelly Lafon.
Comme Nelly Lafon, voilà, exactement. williamtell.nl, c'est une véritable bible sur toute la série. Tous les épisodes sont décortiqués un par un. Et il y a tous les lieux de tournage, donc avec des captures d'écran, etc. Il y a même une section figurant, avec des avis de recherche où on nous demande d'envoyer un mail au responsable du site si on connaît les gens. Et il y a des captures d'écran avec Nelly.
Ah, et est-ce que quelqu'un a envoyé un mail ?
Je n'ai pas encore fait le mail, mais je
vais m'en charger dès cet après-midi. Tiens, il faut parler hollandais ou pas ?
Non, le site est en anglais.
Il est en anglais.
Ça reste compréhensible à peu près.
Ok, super. Béné, on a une actualité dans cette émission ?
Oui, une actualité. En fait, le dernier film qui vient de se tourner en Lozère n'est pas encore sorti, hein, puisqu'il est vraiment en tournage, se nomme Les Furies. C'est le premier long-métrage de Camille Poncin. Et alors, le tournage a eu lieu de septembre à octobre 2024 dans les Cévennes. Et il réunit Céline Salette, Lou Lampros et Bertrand Belin, quand même. Alors, il devrait sortir en 2025.
Super.
Super. Merci beaucoup, Béné. Voilà pour cette visite radiophonique de Noël. Pour janvier, on va aller où, les filles ?
Eh bien, je propose qu'on fasse tous le Dry January et du coup qu'on parle d'eau.
Merci. À bientôt.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafon.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lotte en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.